Pauvre Paul. Il y a des pasteurs qui en bavent quand même. Hein. L'un d'entre vous, d'ailleurs, me disait dimanche dernier, après la prédication, mais ça tire de partout dans cette église. On se demande même comment une seule église peut cumuler autant de problèmes. Dérives à caractère sexuel, inceste, problèmes alimentaires, procédures judiciaires entre frères, tensions entre hommes et femmes sur la place de la femme, des querelles d'égo, des dissensions sans fin. Et Paul, sans se décourager, essaie de rafistoler ici et là les relations, les questions, éteindre les incendies et expliquer inlassablement ce qui n'est pas compris. On dirait qu'il coche, vous savez, les problèmes avec un soin infini. Et vous avez vu d'ailleurs à la fin de notre passage, il ajoute « Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai. » Quelle morale, cet apôtre Paul. Le problème du jour, c'est les repas communautaires. C'est un bazar sans nom. Alors essayons de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, je vais reprendre la main. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Dans l'Église, le repas du Seigneur s'est transformé en une sorte d'orgie chacun pour soi. Vous l'avez vu, hein, les uns s'empiffrent sans se demander un seul instant si le frère et la sœur d'à côté ne seraient pas heureux de partager une petite part de leur abondance. Non seulement on s'empiffre, mais on se saoule pendant que d'autres regardent et jeûnent par nécessité. Une sorte de boulimie et d'anorexie réunies pour le pire dans l'église. Spectacle désolant. Et la première chose que l'on apprend ici, c'est que l'église de Corinthe avait l'habitude de célébrer la Sainte Cène après le culte, pendant le repas qui était censé être communautaire. Et là, il s'est produit un double dérapage. Le repas du Seigneur est devenu un prétexte pour organiser des banquets. Ce n'est plus le Seigneur qui est au centre, c'est le désir de faire ripaille, de se baffrer. Et puis, deuxième dérapage, ces banquets étaient devenus une occasion pour étaler son niveau social. D'un côté, les riches étalaient leurs revenus, leurs plats et leurs amphores. Et de l'autre, les pauvres, peut-être des esclaves, des petites gens, comme on dit, qui regardaient les mains et le ventre vide. C'était non seulement une parodie de repas communautaire, mais c'était surtout un scandale, puisque ces chrétiens faisaient exactement le contraire de ce qu'ils prétendaient être. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Et Paul, à la fin, conclura que cette communauté est malade. Il dira, voilà pourquoi il y a parmi vous tant de malades, d'infirmes, qu'un certain nombre sont morts. Une église malade de ses membres. Malade à la mort. C'est parce qu'elle est malade que le repas du Seigneur a perdu toute signification. Et c'est parce que le Seigneur a perdu sa place que la communauté est malade, vous savez. On est là dans un cercle vicieux qui explique les pathologies communautaires et personnelles. Et Paul ne, alors, il ne les félicite pas, c'est la moindre des choses, mais il ne rend pas un verdict sans appel, un jugement dur. Il a au contraire, je trouve, des paroles encourageantes qui appellent l'Église à changer de cap. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, il dit. Un peu plus haut, il dit que chacun s'éprouve soi-même avant de manger le pain et boire la coupe. Paul appelle la communauté à quelque chose de simple. Manger et boire en discernant le corps. Et le texte original ne précise pas de quel corps il s'agit. Nous, nous entendons que c'est le corps du Seigneur, mais ce n'est pas dit. S'agit-il du corps du Seigneur ? Bien sûr. Mais s'agit-il de l'Église qui est corps du Seigneur ? Sans doute aussi. Cette double signification au corps doit être sans doute retenue. Le repas, ce repas, c'est le repas du Seigneur partagé dans la communauté. Et Paul, qui conclut très pastoralement, là je clique, quand vous vous réunissez pour le repas, voilà, un peu plus loin, non, oui, pardon, je vais y arriver. Quand vous vous réunissez pour le repas, voilà. Non, non, c'était bien. Merci, c'est celle-là. Quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui avant que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Voilà. Affaire réglée. Point suivant, puis il y a toute une liste de choses que Paul veut encore aborder avec eux. Mais n'allons pas trop vite. Vous êtes peut-être en train de vous demander ce que cette affaire de dérive orgiaque corinthienne a à voir avec notre communauté. Nous avons partagé dimanche dernier un repas et une journée magnifique, communautaire. Tout le monde s'est bien tenu, il n'y a pas eu d'excès, peut-être un excès de fraternité, mais on ne va pas s'en plaindre. Nous avons vécu une journée magnifique, alors, mais attendez, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette exhortation finale de Paul ? Quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres ? Le repas du Seigneur est défini ici comme une attente. Une attente mutuelle. Attendre quoi ? Alors, cela paraît peut-être évident qu'après s'être attendus les uns les autres, il ne reste plus qu'à passer à table. Mais alors, pourquoi Paul le rappelle-t-il si c'est si évident ? Attendez-vous les uns les autres pour manger, pour commencer à manger. Il y a peut-être une explication. Paul ne précise pas l'objet de l'attente, mais il ajoute quelque chose. Il ajoute ceci. Si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison. Le repas du Seigneur est donc un repas pour attendre, et non un repas pour apaiser sa faim. Ce n'est pas un repas pour se remplir. La satiété n'est pas le but du repas du Seigneur. Et en fait, il faut qu'on remonte encore un petit peu, je vais le faire, dans le texte, pour trouver une confirmation à cette hypothèse. Et c'est d'ailleurs la partie du texte que nous connaissons quasiment par cœur. C'est l'institution du repas par le Christ qui commence ainsi. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, c'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il fit de même avec la coupe. Paul raconte là ce qui est arrivé une seule fois, ce soir-là, pour qu'on n'oublie pas. Mais dans ce récit de Jésus rompant le pain, il y a plus qu'un souvenir. Il y a plus que l'évocation de la Pâque juive. Ces paroles ne sont pas seulement descriptives ou évocatrices du passé, non, il y a plus. Jésus, en prenant du pain, dit « Ceci ou c'est mon corps qui est donné pour vous. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ce qui est remarquable ici, c'est que les verbes sont au présent. L'alliance que Jésus est en train de réaliser est nouvelle et même d'une éternelle nouveauté. Un événement est en train de se jouer sous leurs yeux, aux 12, sous les yeux aussi de l'apôtre Paul, qui a reçu le témoignage des 12, sous les yeux des Corinthiens, sous nos yeux. Maintenant, Jésus, en chair et en os, ou plutôt de chair et de sang, appelle chacun à faire alliance nouvelle avec lui, ici et maintenant. Et il ajoute, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et le verbe n'est plus au présent cette fois. Il est au futur. Que vous en boirez, que vous en mangerez. Jésus projette donc ses disciples dans l'avenir. Vous ferez mémoire de moi toutes les fois où vous mangerez, boirez de cette coupe. Donc vous voyez que Jésus est en train de préparer les gestes et les paroles qui seront prononcées et faites demain. C'est une institutionnalisation du repas. Et là, on n'est plus dans le souvenir. On n'est pas simplement non plus dans le présent. On est dans une expérience de mémoire du passé. Et cette expérience vivifie, transforme, illumine l'instant présent. Et elle ouvre aussi un avenir plein de promesses. Le souvenir, on marche tous avec ça, hein ? On sait comment ça marche, le souvenir. D'ailleurs, on dit qu'on a un souvenir. On est propriétaire. Mais c'est une illusion, c'est souvent le souvenir qui nous tient. Qui nous enferme quelquefois dans une lecture de notre passé, pour le meilleur ou pour le pire. Mais ici, Jésus nous appelle à faire autre chose, à faire mémoire. C'est différent. La mémoire dont il est question ici ressuscite le souvenir, non pas pour le contempler dans le passé, mais pour lui donner vie, ici et maintenant. La mémoire crée un événement de présence, de rencontre, dont la puissance va bouleverser nos vies. Elle peut les mettre par terre. Elle veut les relever et les envoyer. Les mettre en marche. Jésus, vous voyez, n'a pas du tout envie de figer sa relation avec ses disciples dans une statue de sel, d'un pieux souvenir. Il se rend présent dans la mémoire vive de tous ceux qui croient en lui. Paul précise bien qu'il s'agit de faire mémoire de la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Il s'agit donc bien de prendre la mesure d'une absence dans cet acte de mémoire. Une absence, mais une absence vivante. C'est un peu paradoxal, oui. Vivante et finalement tellement présente. C'est le Seigneur absent qui nous met en marche, qui guide nos gestes, inspire nos paroles, et dont la venue est certaine. Cette absence, présence du Seigneur, nous ne pouvons la reconnaître et la vivre que par la foi. Jésus n'est finalement pas de ces chefs religieux qui, vous savez, qui saturent l'espace relationnel de leur présence, qui mettent la pression, qui ordonnent, qui exigent. Le Seigneur Jésus se tient là, dans cet interstice de l'absence-présence, et de là, il suscite notre faim et notre soif de lui. Il est un Seigneur qui se fait désirer, qui se fait attendre. Oui, l'attente, nous en parlions au début. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. On ne prend pas le repas du Seigneur pour combler sa faim, mais pour nous tenir ensemble sur cette brèche de l'attente de la venue. Pour vivre ensemble l'absence, c'est-à-dire le manque de présence, mais en même temps, cette présence sûre, délicate et vivifiante du Seigneur dans notre communauté et dans nos cœurs. Sœurs et frères, nous allons manger et boire dans quelques instants. Une petite bouchée de pain, une petite goulée de vin, pas un repas, mais un repas symbolique pour dire ensemble que nous reconnaissons et que nous attendons le Christ, lui qui vit au cœur de nos vies, ici. À la table du Seigneur, nous mangeons et nous buvons pour avoir faim, pour avoir soif de Dieu, pour avoir faim et soif les uns des autres, pour avoir faim de sa venue et de son règne. Amen.